Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la délivrance des puissances spirituelles. Jusqu'à présent, dans nos études sur la délivrance, nous avons voulu mettre l'accent là où la Bible insiste, c'est-à-dire sur le fait que Jésus est venu sauver les hommes du péché. Il nous délivre des conséquences éternelles de nos péchés et nous libère de la crainte de la mort. Il transforme notre manière de vivre et nous donne une joie que le péché ne peut jamais procurer. Ce n'est pas que Dieu est indifférent aux conditions difficiles que nous vivons, mais la libération qui l'intéresse le plus ne concerne ni un régime politique, ni la pauvreté, mais la condition spirituelle de l'homme. Nous avons souligné aussi que, malgré ce que disent certains, la plupart des hommes ne sont pas possédés de mauvais esprits, y compris en Afrique. La délivrance dont les hommes ont besoin le plus souvent demande la repentance plutôt que l'exorcisme. Ne croyez pas, pourtant, que la venue de Jésus n'a rien changé en ce qui concerne les esprits méchants et leur activité vis-à-vis de l'homme. Satan et tous les êtres qui lui sont alliés ont depuis longtemps terrorisé les hommes. Ils sont derrière la puissance par laquelle les sorciers font souffrir et mourir. Par quel principe les mauvais sorts fonctionnent-ils si ce n'est pas par l'activité du diable et de ses démons? Qui sont les maris de nuit et les revenants et les génies, si ce n'est des esprits qui sont en ligue avec Satan, qui ne sont pas de Dieu? Ceux qui sont réellement possédés de démons et les faux prophètes qui réalisent des miracles mensongers, ainsi que les prêtres de fétiches et les marabouts, tous témoignent de la réalité du monde des esprits. C'est en partie pour se protéger de ce monde d'esprits que des hommes portent des gris-gris ou fétiches, qu'ils font des sacrifices, qu'ils se confient à des prophètes, qu'ils récitent des paroles magiques. Pourtant, la crainte demeure. Or, de même que Jésus délivre les hommes de la crainte de la mort, il les délivre de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, versets 12 à 14 dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ce passage parle, bien sûr, du pardon des péchés, mais il affirme aussi la délivrance de la puissance des ténèbres. Le chrétien n'a pas besoin de craindre ces êtres spirituels qui ne se soumettent pas à Dieu. Il a une pleine confiance à cause de quatre réalités. Premièrement, le chrétien sait que Jésus est plus fort que les esprits méchants. Il est divin. Et en tant que fils de Dieu, en tant que créateur, il est au-dessus de tout ce qui a été créé. Colossiens 1, versets 15 à 18 dit qu'il est le premier-né sur toute la création. C'est-à-dire, tout comme le fils premier-né avait au temps biblique une prééminence et une autorité sur ses frères et sœurs, Jésus est au-dessus de la création. Ainsi Paul dit à son sujet, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Notez bien ces expressions, trône, dignité, domination et autorité. Dans les épîtres de Paul, de tels mots ne se réfèrent pas à des hommes, mais à des êtres spirituels. Cela est très clair en Éphésiens 6, verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Or, ce sont justement les termes que Paul emploie quand il dit en Éphésiens 1, verset 20 à 22, que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus est donc au-dessus de tous ses esprits et de ses puissances des ténèbres. Le chrétien n'aurait pas raison de les craindre. Comme l'apôtre Jean nous le rappelle en 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Non seulement le chrétien a une pleine confiance parce que Jésus est plus fort que Satan et les esprits qui s'alignent avec lui, mais aussi parce que Jésus leur a infligé une défaite dont ils ne pourront jamais se remettre. Revenons à un passage que nous avons vu dans une étude précédente, Hébreux 2, versets 14 et 15. Puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par la mort le diable. Par sa mort sur la croix, Jésus a vaincu le diable. Il l'a détruit, non pas dans le sens où le diable n'existerait plus, mais il lui a enlevé une partie importante de son pouvoir de nuire à l'homme. Colossiens 2, verset 15 est un autre passage qui enseigne la même idée concernant la mort de Christ et son effet sur le diable. Il dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est par rapport à cette victoire de Jésus sur Satan qu'il a dit en Jean 12, verset 31, peu avant son arrestation et sa crucifixion, « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Évidemment, ces passages ne signifient pas que Satan n'est plus dans le monde ou qu'il n'a aucune possibilité de faire du mal aux hommes. Nous avons déjà lu en Éphésiens 6, verset 12, que nous avons encore à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Pierre 5, verset 8 nous rappelle que « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Néanmoins, pour nous qui sommes lavés dans le sang de Christ et qui demeurons fidèlement en lui, l'activité et le pouvoir de Satan sont bien limités par le Seigneur. Dieu veut que nous soyons vigilants à l'égard de notre adversaire, mais non pas dans la crainte ou l'inquiétude. Quelles que soient les épreuves que nous endurons dans cette vie, nous avons cette assurance en Romains 8, versets 31 et 37 à 39. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En plus du fait que Jésus est plus fort que Satan, en plus du fait que par sa mort et sa résurrection, Jésus a dépouillé et vaincu Satan et les mauvais esprits, le chrétien reste confiant parce que le Saint-Esprit demeure en lui. Nous avons déjà lu en 1 Jean 4, verset 4, « Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jésus est en nous par son esprit. L'apôtre Pierre a promis le jour de la Pentecôte, en Actes 2, 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'Esprit de Dieu lui-même nous est donné lorsque nous obéissons à l'Évangile. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Cette promesse s'applique à tout chrétien, c'est-à-dire à toute personne qui a cru en Jésus comme Fils de Dieu, qui s'est repenti de ses péchés, qui a confessé sa foi en Christ et qui a été immergé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Par contre, Paul dit en Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, aucun mauvais esprit ne pourrait nous posséder. Il n'y aura pas de place en nous. Aucun esprit n'est assez fort pour déloger le Saint-Esprit. Si, en tant que chrétien, je cherche à marcher selon l'Esprit de Dieu, à demeurer dans la lumière de Dieu, son esprit ne cédera jamais la place à un démon quelconque. Un agent de Satan ne pourra pas prendre le contrôle de ma vie. Un démon n'y aura pas accès. En tant que chrétien, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, Israël spirituel. Une histoire de Nombre 23 dans l'Ancien Testament, du temps où Israël physique était le peuple de Dieu, pourrait nous éclairer sur notre situation. Quand les Israélites, les descendants de Jacob, se dirigeaient vers le pays de Canaan, que Dieu voulait leur donner, ils ont eu à traverser le territoire de Balak, roi de Moab. Bien qu'Israël n'ait pas eu l'intention de prendre son territoire, Balak avait peur de ce peuple très nombreux. Alors il a fait venir d'un pays lointain un prophète du nom de Balaam. Il lui a offert de riches présents pour que Balaam maudisse les Israélites pour lui. Balaam dit au roi de bâtir sur une certaine hauteur sept autels et de sacrifier dessus sept taureaux et sept béliers. Balak a fait ce que le prophète a dit de faire, mais quand Balaam se mit à parler, au lieu d'une malédiction, c'est une bénédiction qu'il a prononcée. Balak n'était pas content, mais Balaam n'y pouvait rien. Balak a proposé de maudire Israël d'un autre lieu. Sept autres autels furent construits, sept autres taureaux et sept autres béliers furent immolés. Mais encore, Dieu n'a pas permis à Balaam de lancer un mauvais sort sur son peuple. Au contraire, Balaam, malgré lui, a béni Israël. La même chose s'est produite une troisième fois, avant que Balak n'abandonne son projet. Et la troisième bénédiction que Balaam a prononcée contient un verset que nous devons retenir. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, verset 23. Le même principe est vrai pour les chrétiens, Israël spirituel. La sorcellerie, la magie, l'enchantement, les attaques démoniaques ne peuvent pas avoir le dessus sur le chrétien. Dieu le protège. Il n'a pas besoin d'amulettes, de bagues ou de fétiches pour le protéger. Dieu est sa protection. Il est délivré de la crainte.
Laisse aller mon peuple. Dieu.